Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre ?
Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
Sur Radio Campus Paris.
Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et bienvenue dans Pièce détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en Île-de-France sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir la metteuse en scène et autrice Elsa Grana pour nous parler de sa pièce « Papy Quichotte », jouée jusqu'au 8 mars au Théâtre Paris-Villette. En chronique, on vous parlera des trois pièces, « Cinq fantômes des Amandiers », des Noam Seltzer, du 21 février au 30 mai au Théâtre des Amandiers, « Extra Life » de Gisèle Vienne, qui a été jouée du 19 au 22 février à l'AMC 93, et on terminera avec Rumba de David Morgia et Ascanio Celestini, qui a été joué du 17 au 21 février à la Maison des Métallos, mais que vous pourrez voir cet été au Théâtre des Doms à Avignon. Mais commençons par l'interview. Bonsoir Elsa Grana, merci d'être avec nous ce soir pour parler de votre pièce « Papy Quichotte » qui se joue actuellement au Théâtre Paris-Villette.
Bonsoir.
Bonsoir. Ah donc, Papy Quichotte est un spectacle qui invite à porter un autre regard sur la folie, la vieillesse et l'enfance. Au cœur du récit, Sacha, une petite fille de CE2, qui étouffe dans son cadre familial, son grand-père, atteint d'une maladie neurodégénérative, se prend pour Don Quichotte de la Mancha et persuadé donc d'être un chevalier errant, il transforme chaque geste du quotidien en aventure héroïque. Face à ses délires qui bouleversent l'équilibre familial, ses proches tentent une expérience radicale, n'est plus le contredire, mais entrer dans son imaginaire, jouer avec lui, dire oui à ses récits. Et peu à peu, la maison se métamorphose et les réals se mêlent à la fiction. Donc, votre pièce, inspirée de Cervantes, Papy Quichotte, explore la puissance du jeu, du soin et de l'imaginaire partagé. Les spectacles mêlent théâtre, magie à vue, théâtre d'objets, sans jamais chercher à tromper, mais n'invitant petits et grands à croire ensemble. C'est une pièce qui célèbre la fragilité comme une force collective et les délires comme, une possible voie de réparation. Donc, Elsa Grana, Papy Quichotte s'inscrit dans la continuité de vos précédentes créations autour de la vulnérabilité, de la perte, de la souveraineté et du soin. Qu'est-ce que cette fois vous a conduit à faire entrer fortement la question de la vieillesse, de la maladie et du regard de l'enfant dans votre théâtre ?
Alors, c'est la première fois que je m'adresse directement à des enfants. C'est mon premier spectacle vraiment jeune public. Mmh. Et j'avais envie de pouvoir, dans un contexte social où on sent nos institutions de plus en plus fragiles, où on voit que beaucoup de choses dépendent des décisions individuelles, dans les qualités des soins, par exemple, en hôpital. Beaucoup de choses dépendent du bénévolat aujourd'hui, ce qui n'était pas tout à fait prévisible pour le système français. Et j'avais envie de célébrer la capacité qu'ont les humains à trouver des ressources, alors qu'ils se plaignent beaucoup qu'il n'y en a plus assez, et ils trouvent pourtant plein de ressources. Et je voulais m'adresser aux enfants en mettant leurs parents à côté pour qu'ils se sentent bien concernés et en regardant sur la vulnérabilité des grands-parents pour voir comment cette chaîne en fait intergénérationnelle pouvait retrouver un équilibre, une ressource en chacun, une forme de santé chez les enfants, chez les parents, chez les grands-parents, tout à fait relié par la capacité d'imaginer d'autres façons de faire, d'arrêter de prendre un peu les autoroutes qu'on connaît par cœur et qui aujourd'hui sont de moins en moins énervées par l'argent et par le temps. Voilà, on a des modalités, des façons de faire. Et au contraire, regarder un peu ce qui arrive comme des petits ruisseaux par capillarité, ce à quoi on ne prêtait pas forcément attention, et le soin par le jeu, par la fiction, par le fait simplement de dire oui à l'autre, de dire oui à tout. Et les premiers enfants qui sont venus voir le spectacle m'ont révélé vraiment quelle était la charnière dramaturgique. Et il y a un petit enfant de 8 ans qui m'a dit, en fait, c'est le moment où les parents sont réunis autour de la table ronde et se disent, et en fait, au lieu d'essayer de contrôler le grand-père qui fait n'importe quoi, qui a des comportements aberrants, si on le laissait, si on disait oui à tout ce qu'il dit et qu'on suivait son histoire. Et c'est une option qu'on pourrait tous s'offrir, de laisser libre cours à quelque chose dans le soin qu'on a pour les enfants comme pour les personnes âgées.
Mais en même temps, laisser libre cours, ça implique effectivement des choses. Et pourquoi on ne le fait pas normalement ?
On ne le fait pas parce que ça implique en priorité de passer sur la peur du débordement et de passer sur la peur de ne pas avoir le temps. Et ce que j'essaye de mettre en exergue dès le début du spectacle, c'est une famille un peu dysfonctionnelle parce que c'est des gens qui sont très tournés vers une individualité. Enfin, ils sont dysfonctionnels comme vous et moi, hein. Ils ne sont pas dysfonctionnels, voilà. Mais ils sont tournés vers une exploration de leur individualité et l'exploration des charges qui pèsent sur cet idéal qu'ils ont de ce qui devrait être, quoi. Donc, ils veulent absolument se réaliser sur toutes les formes de leur être, absolument tout porter, le sport, les loisirs, la confiance en soi, etc. Et puis finalement, par peur en fait, de ne jamais atteindre cette image idéale, ils n'arrivent pas à investir le concret, le réel des situations, et ils passent à côté de ce qui est ineffable, c'est-à-dire l'enfance de leur propre enfant. Mmh. Ils passent à côté de ce qui de la plus grande beauté, c'est-à-dire la folie, la part de folie d'un grand-père qui est quand même assez acariâtre aussi. Du coup, ce qui nous empêche, je crois, de céder comme un barrage, en fait, c'est le barrage identitaire, en fait, qu'on se construit sur les choses devraient être comme ça. Mm-hmm. On nous a appris que les choses tenaient entre elles comme ça. Or, c'est pas vrai. Voilà, c'est tout. Il y a un moment, il faut poser un genou à terre et se dire, mais c'est pas vrai. Parce que quand on voit dans le système de santé, ça tient effectivement par un fonctionnement structurel. Évidemment, aucun corps ne tient sans colonne vertébrale. Je ne vais pas tout abroger d'un coup. Mais on voit que depuis le début, tout tient parce que justement, il y a plein de petits humains qui se tiennent dans l'ombre des systèmes et qui font des petites choses tout à fait différentes. Tout à fait différentes, qui font à leur façon. Et ça, c'est une... J'ai envie qu'on valorise ce savoir des humains à la juste hauteur et qu'on arrête de mettre... au-dessus, les protocoles, les façons de faire, les recettes, ça ne marche pas. C'est un échec, quoi. Alors que quelque chose qui est beaucoup plus libre et souple de la part des soignants, de la part des familles, de la part des aidants, leur laisse une chance de rester confrontés à la vulnérabilité, à la maladie, sans en devenir trop atteints non plus. Parce que le problème, quand on a trop de principes, après, nos principes sont fortement ébranlés par des gens qui rentrent pas dans les cases, en fait. Mm-hmm. Donc, on souffre sans arrêt, au lieu d'accepter la mobilité qui est en nous comme en eux, quelque part.
Je vois. Et les points de vue des Sacha, donc enfant de CE2, est central dans votre pièce. Pourquoi est-il important que ce soit l'enfant qui formule le SES initial et qui mette en crise les récits fabriqués par les adultes ?
Alors, pour moi, je vais enfoncer un peu des portes ouvertes, mais la figure de l'enfant est fondamentale dans tout mon théâtre parce que c'est étymologiquement.
Oui.
L'enfant, c'est celui qui n'a pas la parole. Et infant, quoi, voilà. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment fondé mon théâtre. Voilà. Pour moi, l'art théâtral est vraiment le lieu où prennent la parole ceux qui ne l'ont pas, les humiliés. Les gens qui sont un peu sur le bas-côté du grand système social et que c'est par l'analyse de ce qui traverse qu'on peut se refonder. Et Sacha,
oui,
elle a cette fonction d'éveil et de clarté de la pensée parce que les enfants sont très premiers dans leur façon de lire les événements, de lire le réel. Ils n'ont pas justement de barrière, de principe, juste ils sont en éponge assez poreuse et ils cherchent à comprendre. Tout est un questionnement, rien n'est un résultat ou un fait établi. Et donc, suivre un enfant de 8 ans dans l'exploration de la folie, c'est comprendre que tout est mobilité. Et c'est pour ça que c'était important qu'on s'accroche à son personnage. Et puis pour les enfants, ce que je voulais aussi arriver à leur raconter, c'est je m'étais mis un petit défi aussi d'arriver à parler direct aux enfants, dans un spectacle jeune public, de la solitude des enfants. Et de voir si ça faisait écho en eux. Parce que c'est souvent des choses qu'on n'exprime pas dans les spectacles pour enfants, je ne sais pas trop, mais en tout cas dans dans les films, on voit la quête du héros, voilà, la transformation. Il y a beaucoup d'épique, en fait, qui est proposée à la formation de l'enfant. Mais cette solitude première, d'être à côté et de toujours regarder dans l'angle mort des adultes, qui est vraiment la posture constante de l'enfant, puisqu'il ne comprend rien à ce qu'on fait autour de lui, elle est rarement évoquée. Et je voulais voir si ça se câblait avec eux. Et ça se câble très vite avec Sacha. Et ça, c'est plutôt très réjouissant.
Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Mas que beleza!
Em fevereiro,
tem carnaval.
Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, sambaby, sou um menino de mentalidade mediana.
Pois é.
Mas assim mesmo feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém.
Pois é.
Pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Beleza.
Em fevereiro
tem carnaval.
Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, sambaby, eu posso não ser um grande líder, mas assim mesmo lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Mas que beleza!
Em fevereiro,
tem
carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa.
Ó, no patropi, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Mas que beleza!
Fevereiro,
tem cana.
Eu tenho fogo e o viol. Sou planeta, é uma necha batere. Sou planeta, é uma necha batere. Eu sou planeta, é uma necha batere. Eu sou planeta, é uma necha batere. Eu sou planeta, é uma necha batere. No meu dragão moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Mas que beleza!
Em fevereiro,
tem carnaval.
Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. A cuiquinha, a cuiquinha. Moro país tropical, bibi, abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse bibi foi de campeão mundial. Em fevereiro,
tem carnaval.
Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Mas que beleza!
Em fevereiro,
tem carnaval.
Eu tenho o fusca e o violão. Sou flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa.
Premier morceau de la soirée, Pays tropical de Jorge Benjor. Nous sommes toujours en compagnie d'Elsa Grana pour parler de sa pièce Papy Quichotte, jouée jusqu'au 8 mars au Théâtre Paris-Villette.
Et les spectacles, donc, c'est votre premier spectacle jeune public et s'adresse à un public à partir des 7-8 ans. Moi, je l'ai vu avec mes enfants qui ont 3 et 5 ans.
Okay.
Et ils étaient, tous les deux, ils étaient scotchés. Ils n'ont pas...
3 ans ?
Oui.
C'est pas vrai.
Oui, ils étaient très contents. Oui. Et donc, vous arrivez à convoquer des problématiques très lourdes comme la maladie neurodégénérative, l'épuisement familial, la solitude, l'impossibilité du dialogue. Comment avez-vous travaillé l'équilibre entre exigence artistique et complexité des sujets et adresse aux gens publics?
Alors, ce que j'ai cadré, c'est quand même, j'ai apprécié avoir une sorte de cadre dans l'adresse du jeune public, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes de temps et pour moi, des contraintes de rythme et de lisibilité. Là où je dois avouer que dans le théâtre que je fais, j'explore vraiment d'autres choses où le temps, par exemple, je fais des spectacles plutôt très longs, j'aime mélanger plusieurs idées, créer des paysages sans forcément trop diriger l'attention des gens, créer des paysages humains pour que le spectateur se fasse lui-même son parcours. Et là, j'ai apprécié cette contrainte-là de me dire, en fait, je veux les guider, mais comme avec un petit peu l'autorité de leur main dans la mienne, quoi. Voilà. Je voulais qu'ils soient sécurisés pour stabiliser le sens. Donc ça a été une première chose. Donc j'ai commencé par écrire une trame. Ensuite, on a confronté ça aux acteurs parce que j'aime toujours ramener énormément de l'expérience réelle des acteurs dans leur vécu, leur phrasé, parce que je trouve que toujours les acteurs ont un texte en eux, une sorte de parole. Donc ça s'est emmêlé de ça. Et puis de base, je savais que je voulais absolument mélanger des générations avec des vrais problèmes. Et les enfants n'aiment pas les faux problèmes. Je crois qu'ils sont très poreux. Ils n'ont pas d'appréhension des cadres. Pour eux, le sujet n'est pas grave, en fait. Le sujet est vrai. Et on a très fort ça en commun, de parler des choses vraies et sans trouver forcément qu'elles sont graves, mais elles sont vraies. Donc, ça, c'était des choses, pour moi, assez évidente de relier la gravité du grand-père et la gravité des enfants. En fait, ils sont accrochés par des sujets sans avoir la vapeur mentale quelque part.
Et donc, vous êtes inspiré du texte Don Quichotte de Miguel de Cervantes. À votre avis, qu'est-ce que dans ces textes du XVIIe siècle vous semble particulièrement résonner avec notre présent et avec la question de la vieillesse?
Alors, ce que j'ai trouvé formidable dans Cervantes, et que je ne pouvais pas du tout raconter pour le jeune public, mais ce qui me semblait matcher avec notre personnage de grand-père, c'est le fait que Cervantes écrit ça après avoir vraiment combattu pour la chrétienté, puis les batailles s'arrêtent, il perd une main, et on retrouve une espèce de personnage, un homme un peu désœuvré, quoi, qui ne sait plus quoi faire de sa vie, qui ne sert plus à rien à l'ordre social qui est le sien. Un homme un peu à côté de son temps présent qui se met à écrire sur tout ce qui a été valorisé par la chevalerie, etc. Et il revient un peu sur cet âge d'or en étant déconfit, en ayant perdu une main. Ça, je trouvais ça fascinant. Je trouve ça très beau parce que je crois que beaucoup de gens d'aujourd'hui qui ont atteint un certain âge sont déconfits des idéaux qu'ils avaient essayé de mettre en œuvre, de ce qu'il en reste, et ils ne comprennent pas quels sont nos nouveaux idéaux aujourd'hui. Et cet à côté du monde me touchait beaucoup pour le transférer sur notre papy. Et ensuite, dans Don Quichotte, ce que j'adore, c'est la nécessité absolue de transformer le réel et la confrontation avec les gens qui représentent le réel, les aubergistes, les gens très ancrés dans cette réalité et ce rapport en fait extrêmement théâtral. Finalement, entre qui croire, que croire et ce à quoi on veut croire. Et pour moi, ça, c'est la base de la foi dans le théâtre. Donc, il y avait quelque chose qui me parlait énormément. Après, on a lu plein d'aventures qu'on ne pouvait pas du tout transposer pour le jeune public parce qu'en fait, c'est extrêmement violent. Il finit à chaque fois édenté, fracassé par les gens. Donc, on s'est dit, bon, très vite, on va expurger au maximum. Et dedans, ce qui est magnifique, c'est vraiment un pilier, mais comme une bible laïque, quoi. On pourrait sortir 200 spectacles de ce premier roman. C'est incroyable, il y a tous les sujets qui sont abordés, donc voilà. Et j'aimais bien aussi l'idée qu'il pose comme premier roman, l'idée de réécriture constante, parce qu'il n'arrête pas d'être réécrit par des gens qui lui rendent hommage, et c'est un peu une des bases de ma façon de faire au théâtre aussi, de m'autoriser avec beaucoup d'arrogance pour certains, oui, le fait de considérer les classiques comme essentiels, mais de les attraper toujours différemment en fonction des temps présents et donc de pouvoir les modifier, les modeler à ma sauce. Et c'est ce qui arrive à Cervantes très vite, puisqu'il écrit le tome 1, après il y a plein de gens qui écrivent un tome 2 à sa place, du coup ça l'oblige à écrire le tome 2. Je trouve ça tellement dynamique et tellement plus simple, plus réel que les droits d'auteur, la pensée, etc., alors que toutes les idées nous viennent par mille capillarités, et on ne sait jamais vraiment ce qu'on a écrit tout seul, quoi. J'aime bien cette fantaisie baroque, ce siècle-là pour ça.
Je vois, mais je voudrais savoir, je voudrais revenir sur la figure de Don Quichotte. Ouais. Pour vous, est-ce que Don Quichotte, il délire, ou Don Quichotte a beaucoup d'imagination? Les Don Quichotte de Cervantes.
Alors pour moi, pour moi, le délire arrive au moment où le réel est plus supportable. Il a vraiment, sans s'en rendre compte, on ne parlait pas de neurones, on ne parlait pas de tout ça au XVIIe siècle, bien entendu. Mais c'est vraiment, il disjoncte cognitivement. Le réel est impossible. Du coup, il se réfugie dans un endroit où là, il peut refonder la justice. Il peut se refonder comme un être humain puissant. Sans ça, dans le réel, il n'existe plus. Et donc, c'est un mélange de... je pense, oui, de déconnexion psychique, je crois, vraiment très forte, et d'imagination liée à un ensemble de valeurs qui sont révolues dans le monde qu'il habite. Du coup, tout est bon pour les rejouer, et puis vu qu'on sait aujourd'hui que notre cerveau, en fait, du moment qu'on lui a accordé les choses en rêve, c'est comme s'il les avait réellement vécues, pour Cervantes, c'est une manière de se soigner, c'est une guérison totale. Et pour Don Quichotte, pareil, c'est une manière de symbolique de soigner cette société qui marche mal et qui marche que sur des apparences. Et il va comme ça pourfendre les apparences et remettre les grandes valeurs au centre dans des cours malpropres d'aubergiste, quoi. Au centre des vrais problèmes, au milieu, pour les rendre de façon évidente, au milieu du chemin. Il a l'art, comme tous les grands fous, de poser les bonnes questions sur les autoroutes, quoi. C'est ça que j'aime là-dedans.
Coração americano, acordei de sonho estranho. Gosto vidro e corte, sabor de chocolate. No corpo e na cidade, sabor.
Coração americano, o sabor de
Notre deuxième morceau de la soirée, San Vicente de Milton Nascimento. Nous sommes toujours en compagnie d'Elsa Grana pour nous parler de sa pièce « Papi Quichotte » qui est jouée jusqu'au 8 mars au Théâtre Paris-Villette. Chez Cervantes, le monde résiste sans cesse à l'imaginaire de Don Quichotte, alors que dans votre spectacle, les autres personnages finissent par dire oui à son récit. Est-ce que là, une forme de réécriture politique de Cervantes où la communauté accepte de fabriquer ensemble une fiction partagée ?
Absolument, ça pour moi c'est très important. Après, je suis très très influencée par Anton Tchekhov, qui est vraiment l'auteur, je pense, que j'ai à la fois le plus joué et le plus aimé monter. Et pour lui, il nous parle sans arrêt de la vie nouvelle et il nous dit comme ça, en se tenant un peu le front, oh là là, pour nous, la vie nouvelle, elle arrivera dans 400 ans, on le verra jamais. Or, moi, je crois que la vie nouvelle, elle est à portée de main pour peu qu'on la regarde vraiment bien. Et que là, aujourd'hui, raconter le fait que les gens refusent de bouger, de changer, c'est peut-être OK au 17e, aujourd'hui, c'est plus OK, on n'a pas le temps. Les gens peuvent changer, doivent changer, vont changer, j'en suis sûre. Voilà, c'est la moitié du monde qui est prête à le faire, et je le sens. Et du coup, pour moi, c'était important de montrer aux gens qu'ils ont ça en eux, et qu'ils ont plein de peurs et de réticences, etc., mais que la capacité de changer, la capacité de croire, elle est là. Il faut y aller, quoi.
Dans votre spectacle, la maison est décrite comme un quatrième personnage qui se transforme progressivement. Et en quoi cet espace domestique, qui est d'abord étouffant, devient les lieux possibles de la métamorphose et du jeu. Et comment ?
Alors, on a voulu partir d'univers aussi. Je voulais partir d'univers très concret pour me relier vraiment au jeune public en traversant ce qui est premier pour les enfants, c'est-à-dire leur territoire. Leur territoire, c'est là où ils habitent. Donc, un salon, une table de cuisine, ils se repèrent. Ensuite, il y a beaucoup d'articulations entre le jour et la nuit. Ce qu'on a le droit de faire la nuit, où ce grand-père n'arrête pas de se réveiller en pleine nuit, ce qui est vraiment un tabou pour les enfants. Ils n'ont pas le droit, la nuit, il faut qu'ils dorment. Il y a plein de contraintes comme ça qui leur sont données par leurs parents qui prennent soin de leur sommeil, quoi. Et donc, qu'ils arrivent à comprendre dans un univers qui leur est très familier tous les petits dysfonctionnements du grand-père. De mettre un saladier sur sa tête, de voir des éléments, des coussins s'animer parce que c'est son esprit à lui qui transforme le réel. Je voulais partir d'une base un peu comme le décrit Maupassant pour arriver au fantastique, en fait, de partir de quelque chose de très concret, très usuel, habituel, qu'on connaît bien et qui, petit à petit, fait des choses bizarres et ça nous aide à les accepter quelque part. Voilà.
Et donc, vous revendiquez une magie théâtrale à vue où les trucages ne cherchent pas à tromper les spectateurs. Pourquoi ?
Alors, j'articule plusieurs sortes de magie, c'est-à-dire à la fois la magie faite à la main, et presque, je dirais, de la main gauche, c'est-à-dire de celle des enfants. Comme à un moment donné, même on prend des cartons pour faire des moutons avec le coton, etc. Cette magie première. Et la grande magie théâtrale, où on ne sait pas d'où ça sort et où on a un effet waouh. C'est aussi une manière de se dire... En fait, c'est pas compliqué de reproduire la magie chez soi. Il suffit de découper des formes d'oiseaux dans du papier blanc et de mettre une baguette au bout et de faire flouk-flouk avec la baguette, quoi. C'est aussi une manière de transmettre un empowerment magique, de se dire c'est reproductible à ta maison. Et la magie, quand on ne sait pas d'où elle vient, elle nous paraît énorme, puissante, au-dessus de nous. Quand on la voit et qu'on voit qu'elle fonctionne aussi, tout à coup, on peut mieux se la réapproprier. Pour moi, c'est aussi une affaire d'éthique, ça, de montrer l'origine de la magie et de montrer qu'elle est liée aux humains en grande partie. Et après, pour le reste, non, bien sûr. Mais quand même, qu'on est responsable magique.
Et en choisissant de convoquer Cervantes dans un spectacle jeune public, cherchez-vous aussi à déplacer les frontières habituelles entre les théâtres patrimoniales et la création contemporaine ? Ou pas ?
Alors, pour moi, ce que je cherche comme contemporanéité, c'est vraiment de trouver un lien entre le temps présent qu'on vit, le passé et les problèmes sociaux d'aujourd'hui. Ça, c'est l'axe contemporain entre l'archaïque, l'ancien, et le temps présent. Il y a des thématiques sociales qui sont très liées au temps présent que j'ai moins tendance à aborder frontalement parce qu'elles sont trop uniquement fondées sur le temps présent. Elles passent trop vite pour moi. Et j'ai besoin d'ancrer le théâtre, qui est quand même un art très vieux, très ancien. C'est un papy qui chante lui aussi, un dinosaure, quoi. J'ai besoin de l'ancrer sur quelque chose de plus profond, sur des choses que les humains se sont répétées depuis 2500 ans et qu'ils n'arrivent toujours pas à intégrer. Ça, c'est quand même un signe, hein. Ça veut bien dire quelque chose, d'arriver de répéter sans arrêt les mêmes choses. Donc voilà, il y a un truc où le théâtre radote et il faut vraiment comprendre pourquoi on a besoin de ce radotage. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais par contre, il y a vraiment l'idée contemporaine de le croiser avec nos questionnements d'aujourd'hui, les humains que nous sommes, nos façons de parler, nos façons de nous comporter, et de faire se rencontrer comme ça un dinosaure et une enfant de 8 ans, mais d'aujourd'hui, complètement implantée dans le grand siècle qu'elle est en train de vivre. C'est vraiment cette confrontation qui crée des étincelles et fait jaillir un feu nouveau sur la tradition. On n'est pas sur des cendres, mais sur des flammes. Là, pour le coup, là, ça devient opérant. Sinon, j'ai l'impression à chaque fois que si je parle que de choses trop, trop contemporaines, il me manque un dossier, un appui anthropologique plus lointain. Et si je ne parle que de cette anthropologie lointaine, alors là, je ne suis plus du tout au présent du théâtre, je suis dans un musée. Et là, ça ne m'intéresse plus assez.
Oui, donc vous utilisez les œuvres de patrimoine un peu comme un matériau.
Oui, je prends ça comme ce qu'ont fait toujours les auteurs avant, quoi, en fait. Hein. C'est de la matière, hein. C'est pas figé. Oui.
Et j'ai vu que vous mobilisez la notion des missions chères à Maria Montessori. Donc, quelles missions confiez-vous symboliquement aux enfants spectateurs à l'issue de votre spectacle ?
Ah, c'est joli, ça. Ah, ben, la mission chez Maria Montessori, c'est de toujours leur raconter aux enfants qui sont partie prenante d'une histoire qui est la grande histoire de l'humanité, qui essaye avec les moyens scientifiques, avec les moyens spirituels, techniques, avec la connaissance, d'enrichir la connaissance globale. Donc je dirais que je confie aux spectateurs, en tout cas je les remets dans cette grande mission de continuer derrière à activer la magie à hauteur de main gauche.
Merci beaucoup Elsa Grana d'être été avec nous ce soir. Donc je vous invite tous et toutes à aller voir ces spectacles jusqu'au 8 mars au Théâtre Paris-Villette. Merci Elsa.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Você
troisième morceau de la soirée, vous festejez des bêtes carvalho. Et maintenant, c'est le moment des chroniques.
Il s'agit d'une histoire, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
En chronique, on vous parlera de 5 fantômes des Amandiers, des Noam Seltzer, du 21 février au 30 mai, au Traite des Amandiers, d'Extra Life de Gisèle Vienne, qui a été joué du 19 au 22 février à la MC 93, et des Rumba de David Murgia et Ascanio Celestini, qui a été joué du 17 au 21 février à la Maison des Métallos, mais que vous pourrez voir cet été au Théâtre des Doms à Avignon. On commence par Extra Life de Gisèle Vienne. Thomas, on t'écoute.
En ces temps quelque peu troublés où le fascisme se croit respectable et parade sans même baisser la voix, il y a quelque chose d'assez précieux à entrer à la MC 93. Quelque chose de presque rassurant. Le public y est bariolé, gender fluide, frange et mulet, une sorte de safe place du théâtre français, au moins pour une soirée. Après les folies joyeuses et intersectionnelles de Joris Lacoste, nous voilà réunis pour la reprise d'Extra Life, la nouvelle pièce de Gisèle Vienne avec Adèle Haenel au plateau. Extra Life, une vie bonus. Le titre déjà dit beaucoup, peut-être trop. Bonus, comme dans un jeu vidéo, oui, mais aussi bonus au sens d'appendice, une sorte de prolongement de crowd, voire son supplément d'âme sombre, tant la scénographie en reprend des marqueurs évidents. Même sol de terre, même déchets, même impression d'après-coup, comme si la rêve-partie était passée et qu'il ne restait que la gueule de bois matérielle. Même goût du ralenti aussi, cette fois poussé jusqu'à la friction. Sur presque 2 heures, la lenteur finit moins par ouvrir un espace que par installer une méthode, comme si Vienne avait appliqué trop littéralement le conseil de John Cage. Si ça tient en 2 minutes, faisons-le en 4. Sauf qu'ici, l'étirement n'approfondit pas toujours, il souligne. Il produit parfois de la pause plutôt que de la percée. Évidemment, cette temporalité va très bien avec l'esthétique vienne. La fumée en abondance, les faisceaux qui la découpent, les lasers, les visages comme en apnée, les corps sous influence, tout cela compose un régime de perception flottant entre trip et sidération. Et cela va bien aussi avec le cœur dramaturgique de la pièce. Un secret familial, une parole qui revient, une scène qui se rejoue dans la mémoire avec ses trous, ses déformations, ses retards. Du festen sous psychotrope, si l'on veut. Rien de neuf sur le fond, au demeurant depuis longtemps. Gisèle Vienne fait travailler ses pièces par une énergie noire, un fait glauque, une violence plus ou moins dite qui plane et organise le dispositif. C'est sa force. C'est aussi son confort. Et l'usage des poupées grandeur nature dont Étienne Bidoret a seul le secret n'y est pas pour rien. Car le paradoxe d'Extra Life est là. Tout est immédiatement reconnaissable, donc immédiatement efficace, donc parfois un peu trop attendu. Le côté bataille, la provocation feutrée, l'esthétique d'une Amérique malade, désaxée, spectralement pop, quelque part entre Lynch, Kubrick, Hitchcock, la mère de Norman Bates, et l'ombre persistante de Dennis Cooper. Tout cela est bien là. Impeccablement tenue, mais sans réel déplacement. La signature fonctionne à plein régime. Elle fascine, elle impressionne, elle touche par moments, mais elle tourne aussi un peu sur elle-même. La grande nouveauté, la vraie, c'est Adèle Haenel. Et il faut le dire nettement, elle est excellente. Pas seulement parce qu'elle attire, aimante ou charrie avec elle une charge symbolique contemporaine, Me Too évidemment, mais parce qu'elle donne du poids, de l'épaisseur, une nécessité à la parole. Chez Vienne, les mots ont parfois tendance à flotter dans le dispositif. Ici, ils cognent davantage. Et Haenel fait résonner des phrases comme « Est-ce qu'on se souviendra de ce qu'on comprend là ?» ou « Je sens tellement mon cœur que ça me fait mal », avec une intensité qui excède le simple effet de texte. Certaines phrases restent, non comme slogan, mais comme symptôme. C'est probablement le plus beau bonus du spectacle. Mais ce bonus ne suffit pas à masquer une forme de déperdition. La disparition de la voiture, présente à la création, au profit d'une tente Quechua, est, de ce point de vue, un vrai appauvrissement dramaturgique. On perd un espace de jeu confiné, un dedans-dehors, un moteur concret pour la tension, et même une justification forte à certains traitements sonores des voix. On perd aussi, plus simplement, une image. Les phares, perçant la fumée, faisaient récit à eux seuls. Avec la tente, l'idée de trip subsiste au sens de stupéfiant, mais perd sa dimension de voyage. C'est moins tendu, moins ambigu, moins cinématographique. Même réserve sur la musique, là où Crowd déployait une puissance sonore qui embarquait vraiment, Extra Life donne parfois l'impression d'un ersatz synthétique, nostalgique, 80s, avec un parfum de série calibrée. On pense par instant à Stranger Things, passé au filtre d'une plateforme. Disons-le franchement, une texture un peu low cost, formatée pour Netflix, là où l'univers de Vienne mérite précisément mieux que le signalement esthétique. Le problème n'est donc pas que la pièce soit ratée, elle ne l'est pas. Le problème est qu'elle ressemble à une grande artiste en régime intermédiaire, une œuvre de sillon plus que de rupture. Une pièce de maintien, de confirmation, de relance peut-être. On y retrouve tout ce qui fait la singularité de Gisèle Vienne, et c'est déjà beaucoup, mais sans l'audace formelle qu'on est en droit d'attendre d'elle. On admire la maîtrise, on reste parfois à distance de l'expérience. On reconnaît la marque, on attend la secousse. Extra Life n'est pas une pièce sans intérêt, c'est une pièce avec trop de signes de son propre intérêt. Et c'est exactement ce qui la rend frustrante. On en sort en se disant « Oui, Vienne demeure une artiste importante, singulière, nécessaire, mais on l'attend désormais ailleurs, plus loin, plus dangereuse, de pied ferme. »
Merci Thomas pour ta chronique. Et on poursuit avec Rumba, de David Murgia et Ascanio Celestini, qui a été joué du 17 au 21 février à la Maison des Métallos, mais que vous pourrez voir cet été pendant les festivals d'Avignon au Théâtre des Doms. Guillaume, on t'écoute.
Voilà, donc j'ai été voir Rumba de Ascanio Celestini et David Murgia. Donc c'était du 17 au 21 février à la Maison des Métallos. Donc David Murgia et donc le texte est de Ascanio Celestini et la mise en scène. Et David Murgia, bon, c'est l'acteur, donc il est seul en scène, accompagné d'un musicien. Et en fait, c'est un magnifique, magnifique conteur. Il réussit vraiment à nous immerger complètement dans cette histoire très attachante. Enfin, où il parle de choses à la fois terribles et fantastiques. Bon, j'avoue que j'ai un petit peu douté au départ quand il nous parlait des étoiles et tout ça. Mais oui, il m'a rappelé en fait ces fantastiques dragueurs qui débarquent à des soirées et puis qui finalement ont des idées très poétiques et qui font un peu rêver les jeunes filles. Bon, je suis très jaloux parce que je passe systématiquement pour un astre mort à côté de ces personnages-là. Et donc lui, c'est ça, c'est quelqu'un de lumineux, de poétique. Et bon, je suis donc pas du tout insensible, hein, je tombe également dans le panneau. Mais c'est un joli panneau, hein, c'est très agréable. Et je vous parle même pas de l'histoire, mais en fait, il va nous parler de Saint François d'Assise. Donc on a un peu la vie de Saint François d'Assise, et puis il va faire habilement un rapprochement avec donc Saint François d'Assise qui vivait parmi les pauvres, hein, donc il va faire un rapprochement avec les pauvres actuellement, donc c'est universel quoi, en Italie, mais ça pourrait être en France, ça pourrait être partout. Donc c'est un récit lumineux, je me répète, hein, mais bon, je pense que ça a titillé un peu ma jalousie, donc ça m'a un peu énervé. D'ailleurs, on y était avec Alice qui était absolument émerveillée, Camille pareil, qui criait des bravo, bravo, bravo. Donc bravo à lui, hein. Et moi je vous conseille d'aller voir ce spectacle. Rumba, voilà.
Merci Guigui pour cette chronique. Et toi Alice, tu en as pensé quoi?
Difficile de dire si j'ai apprécié ce spectacle. Rumba. Je sors de la salle avec l'amertume que laisse le souvenir de la pauvreté. Tu as déjà été pauvre, toi, qui écoutes ? En tous les cas, sur le fond, c'est intéressant. Sur la forme aussi. Merci Camilla de nous faire découvrir des artistes encore révolutionnaires aujourd'hui, tant qu'il est encore temps. Oui, parce que le titre est parlant. Rumbara, 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 cette chanson antifasciste va-t-elle éloigner l'ennemi ? avant les municipales. Alors passe le fleuve, el ejército del Ebro. L'art de raconter du comédien est un peu déroutante. C'est un monologue au flux incessant. Le comédien raconte des histoires de vie toutes plus sordides les unes que les autres. Son élocution est très rapide, comme pour noyer le poisson qui est déjà noyé dans sa propre histoire, après avoir traversé sans succès la Méditerranée. À mon souvenir, tout y passe et trépasse. Le migrant, l'ouvrier, modeste, son fils, le gitan et tous les miséricordieux, c'est affligeant. La scène dénudée se transforme en cours des miracles. Le portrait de Saint François d'Assise et bien d'autres portraits d'hommes d'aujourd'hui, tout aussi misérables, sont dressés. Un art de la digression, en d'autres termes. Et puis, au détour d'une histoire, comme une illumination, on comprend enfin où l'artiste voulait nous mener. La vérité s'éclaire, comme sur le tableau présenté en fond de scène. Seul l'humour, bien qu'à peine perceptible, ne laisse personne en reste. J'avais tant aimé, il y a quelques années, ri et applaudi dans cette veine les spectacles de Commedia dell'arte de Dario Fo et de Franck Aram. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la force d'une compagnie entière. Aujourd'hui, on retrouve des comédiens souvent seuls en scène, prophètes de la dernière heure. Alors, rumbara, rumbara, rumbara.
Et on termine ce soir avec Fantôme des Amandiers, des Noam Seltzer, du 21 février au 30 mai, au Théâtre des Amandiers. Michel, on t'écoute. Tu en as pensé quoi ?
Donc moi, je vais vous parler de 5 fantômes des Amandiers, donc au Théâtre des Amandiers, hein, qui a été récemment rénové. Donc c'est une pièce, entre guillemets, de Noam Seltzer. En réalité, c'est donc plutôt... D'ailleurs, c'est annoncé comme telle une visite. Elle est organisée autour de 2 acteurs qui jouent le rôle de guide exalté. Donc le fil rouge, bien sûr, c'est le théâtre et son histoire à travers ce qu'on appelle donc des fantômes, c'est-à-dire souvent quand même des figures célèbres qui l'ont animé, comme par exemple Patrice Chéreau, hein, qui en est un des grands directeurs, qui en a été un des grands directeurs, ou bien aussi par exemple des actrices connues comme Jane Birkin. Donc on vit quand même réellement donc l'ensemble, enfin une partie du théâtre, hein, pas tout le théâtre, déjà ça dure une heure. J'ai aimé un certain nombre de points, de moments, comme par exemple la visite du planétarium. Donc le planétarium, c'est une salle qui a une forme de coupole, qui a eu, si j'ai bien compris, qui a été effectivement conçue pendant un laps de temps très bref dans l'idée d'en faire un planétarium, mais ça a tout de suite dérivé vers une salle qui avait d'autres fonctions. J'ai appris d'ailleurs par exemple que cette salle n'a pas du tout été créée au 19e siècle, comme c'est plus ou moins évoqué dans cette visite guidée. Donc ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une part quand même de fiction dans la présentation qui rend cette visite un petit peu quand même spéciale. C'est pas simplement les fantômes du théâtre qui sont évoqués à travers leurs grandes œuvres, etc. Il y a aussi une part un peu délirante. Donc on a aussi visité ce qu'on appelle les cintres, hein, au théâtre, c'est-à-dire l'espèce de grille d'où passent tous les câbles, etc., qui alimente donc le décor, enfin qui permet en fait de gérer le décor qui est au-dessus de la scène. Donc c'est quand même une hauteur de plus de 24 mètres, si je me souviens bien. Donc c'est assez joli, quoi, c'est assez intéressant, rigolo. À part ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grand-chose à se mettre sous la dent en termes, disons, d'émotion. Même en fait de type de jeu qui serait particulièrement intéressant, parce que je pense que ça a vraiment été, c'est dans le fond une pièce, une commande en fait du Théâtre des Amandiers pour pouvoir en fait présenter son nouveau espace qui a été donc rénové. Ça a mis 4 ans et ça a été quand même, si j'ai bien compris, un peu houleux parce que les choses se sont pas faites en termes d'attribution des travaux et puis aussi en termes de dépassement des coûts, il y a eu quand même pas mal de remous. Donc il s'agit un peu, je pense, de faire d'essayer de faire un peu quasiment de la publicité, donc évidemment on passe un peu tout ça sous silence, hein. C'est là, ce qui compte, c'est de présenter plutôt le théâtre nouveau et puis de montrer qu'il est beau, qu'il est flamboyant, qu'il a une histoire. Donc voilà, donc c'est pas inintéressant, mais c'est pas non, c'est pas, je n'ai pas été exalté par cette présentation, loin s'en faut. Bon, je n'y étais pas les seuls, il y avait Thomas avec moi. Qu'est-ce que t'en as pensé de ton côté ?
Merci Michel pour cette chronique, et maintenant j'aimerais bien avoir l'avis de Thomas.
Cinq fantômes des Amandiers de Noam Seltzer, c'est tout de même une belle initiative. Nous permettre d'arpenter le théâtre des Amandiers dans ses recoins les plus secrets, les plus interdits, tout en convoquant les fantômes de son histoire. Et rien que pour cela, il faut reconnaître au projet une vraie puissance d'appel. On est tellement heureux de se retrouver sous la scène du grand plateau dans cette forêt de métal aussi fascinante qu'ingrate. Tellement heureux de monter sur le toit du bâtiment où le soleil se montre généreux et offre un panorama presque indécent de calme. Tellement heureux encore de grimper tout en haut sur le grill dans la chaleur, la poussière et les ténèbres, puis de redescendre sur la scène face au fauteuil rouge, que l'on se prend à rêver à une visite encore plus vaste, encore plus curieuse, encore plus insolente. On se dit qu'on aurait aussi aimé voir la salle transformable, qui reste un petit joyau de ce théâtre, les ateliers décors, les ateliers costumes, et pourquoi pas les bureaux de l'administration, tant il est vrai que dans un théâtre, tout mérite d'être regardé, même ce qui ne se montre jamais. C'est là le danger de la proposition. Elle excite l'appétit, elle ouvre les portes, mais elle laisse sur sa faim. D'autant qu'on passe de couloir en couloir, au milieu des gravats, dans un véritable labyrinthe encore en travaux, qui sent la peinture fraîche et l'enduit. Et cela en soi est déjà émouvant, un lieu de mémoire en chantier, un monument vivant, ni musée ni ruine. Alors viennent les fantômes, c'est le prétexte à la visite, ce qui lui donne sa forme théâtrale, sa petite machine fictionnelle, une déambulation portée par deux comédiens qui incarnent tour à tour des figures du lieu. Pourquoi pas ? Mais très vite, un biais se dessine. Les figures convoquées sont les figures attendues. Chéreau, bien sûr, les directeurs successifs, les grands noms de la gouvernance symbolique, comme si le théâtre n'avait été habité que par ceux qui l'ont dirigé. Ce prisme est déjà un peu dommage. Il réduit l'épaisseur d'un lieu à sa généalogie officielle. Alors oui, on croisera tout de même une actrice, Birkin. Oui, un personnage, Anna Petrovna. Mais on revient toujours à Chéreau, et pas au meilleur endroit. Un Chéreau d'anecdotes, de signes, de reconnaissances, de légendes prêtes à consommer. Un Chéreau superficiel. Et c'est là que la proposition pêche vraiment. Comme si, au fond, l'auteur n'avait pas fait le travail, ou pas eu le temps de le faire. Il y a bien la curiosité, on le voit par exemple dans les recherches autour de l'étrange présence d'un planétarium dans ces lieux. Une piste passionnante, réellement singulière, mais sur le cœur théâtral, sur la matière brûlante du lieu, ça se simplifie à vue d'œil. Réduire Chéreau à « dans la solitude des champs de coton », c'est déjà court. Annoncer qu'on assiste à une répétition en 1987 tout en utilisant une musique sortie en 1995, sans même voir l'anachronisme, c'est plus gênant. Ce n'est plus une liberté poétique, c'est une approximation. Et l'on se dit alors que le spectacle dit peut-être involontairement quelque chose de plus vaste sur l'époque. Une manière de travailler à partir de traces secondaires, de récits déjà mâchés, de Wikipédia plus que d'archives, d'impressions plus que d'enquêtes. Un travail de millénial, nous dira-t-on, au mauvais sens du terme, non pas jeune mais pressé, non pas libre mais sommaire. Ce serait injuste de n'y voir que cela, car la proposition a du charme, du désir et une vraie qualité d'accès. Elle donne envie d'aimer les Amandiers davantage, mais elle manque précisément de ce qu'elle promet, la fréquentation véritable des fantômes, c'est-à-dire du trouble, de la complexité, des contradictions, des strates. Et c'est peut-être là, au fond, la question politique du spectacle, non pas le talent des interprètes, ni même l'idée de la visite, mais les conditions de production. Il faut de l'argent pour donner aux artistes du temps. Du temps pour chercher, vérifier, lire, creuser, se tromper, recommencer. Du temps pour faire autre chose qu'un parcours séduisant dans un théâtre en chantier. Du temps pour que les fantômes cessent d'être des silhouettes et redeviennent des présences.
Merci beaucoup Thomas et Michel pour votre chronique. Donc, ce soir, on vous a également parlé des Extra Life de Gisèle Vienne, qui a été joué du 19 au 22 février à la MSC 93, et des Rumba de David Mourges, Canoche Destini, qui a été joué du 17 au 21 février à la Maison des Métallos. En invité, nous avons reçu Elsa Grana pour nous parler de sa pièce Papi Quichotte, qui est jouée jusqu'au 8 mars au Théâtre Paris-Villette. Cette émission a été préparée et présentée par Camilla Pizzichillo, avec la complicité de Thomas Adam Garnon, Guigui, Michel Carton et Alice Valla. On se retrouve dans un mois à 20h sur Radio Campus Paris. Bonne soirée à toutes et à tous. Bisous.
Never betray my heart. I will never.